Nous allons traiter de la communion fraternelle ce matin. Actes des apôtres, que certains qualifient également, appellent les actes du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voici que ces nouveaux convertis, touchés par la prédication de l'apôtre Pierre lors de la Pentecôte, et ont eu une attitude tout à fait surprenante. À aucun moment dans les Écritures, on ne voit quelqu'un leur ordonner de se réunir. À aucun moment, on ne voit quelqu'un leur dire « Maintenant, il faudra faire des réunions, il faudra rompre le pain, il faudra prier ensemble, il faudra entretenir des liens. » Mais je crois que d'une manière très naturelle, je crois que d'une manière quasiment inconsciente, comme une suite logique à leur conversion, ces hommes, ces femmes, touchés par la grâce de Dieu, qui se sont repentis, qui ont cru que Jésus, le Fils de Dieu, était mort pour eux, eh bien, ces hommes se sont réunis. Et régulièrement, avec persévérance, avec assiduité, ils se réunissaient dans les maisons afin de rompre le pain, afin de prier ensemble, afin finalement de partager des valeurs spirituelles communes. Je crois que c'est quelque chose de naturel. La communion fraternelle ne se décrète pas. La communion fraternelle ne peut pas finalement être créée par les hommes. Mais n'oublions pas que derrière la communion fraternelle, il y a tout un concept spirituel. Elle prend sa racine non pas d'une manière horizontale, comme on pourrait le penser. La communion fraternelle n'est pas l'association de deux hommes, de deux femmes qui se mettent à parler ensemble. Mais quelle est la racine de la communion fraternelle? Ce sont des valeurs spirituelles. C'est une foi commune, c'est un esprit commun qui nous unit les uns aux autres. Et donc, c'est une relation qui est avant tout individuelle et qui monte vers le ciel, et qui se réunit auprès du trône de la grâce, et qui se retraduit ensuite, eh bien, par des liens forts qui nous unissent. Il est nécessaire de ne pas confondre communion fraternelle et amitié. Si l'amitié est un sentiment tout à fait noble, il n'en empêche que c'est un sentiment qui est limitatif. Je ne peux pas être ami avec tout le monde. Je ne peux pas être copain avec tout le monde. Même si c'est deux nuances qui sont différentes, c'est deux mots qui sont différents. En revanche, la communion fraternelle est beaucoup plus large. Je suis le frère, je suis la sœur, comme l'a dit Samuel en introduction, de tous ceux, de toutes celles qui, à un moment donné, ont accepté Jésus comme leur seul et unique sauveur. Donc, retenons en introduction que la communion fraternelle est une relation qui est avant tout verticale et qui génère ensuite une relation horizontale. Et cette communion fraternelle, elle prend son paroxysme lorsque nous partageons le repas du Seigneur. C'est le corps de Christ, c'est l'ensemble des membres du corps de Christ que nous sommes, qui d'un seul cœur se souvient de l'œuvre du Maître, se souvient de sa mort, de sa résurrection, de sa glorification et de son retour qui est proche, nous le croyons. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, j'insiste souvent là-dessus, eh bien, ayons conscience que notre voisin, eh bien, consacre son cœur, pense à la même chose que nous, et que finalement l'Église est unie pour partager ce moment-là. Que le Seigneur nous aide à vivre ces instants-là comme quelque chose de fort. Mais pour devenir efficace, la communion fraternelle doit être bien comprise et bien vécue. Et parfois elle peut même, peut-être vais-je vous choquer, devenir quelque peu dangereuse. Il y a des ersatz, premièrement, de communion fraternelle. Il y a des choses qui ressemblent à la communion fraternelle mais qui n'en sont pas. Il y a des manières de faire qui peuvent laisser penser que nous vivons la communion fraternelle, mais en réalité, nous pouvons vivre un simulacre de communion fraternelle. Premièrement, c'est la communion fraternelle que l'on peut appeler la communion fraternelle excessive. Vous savez, lorsque finalement, on se retrouve à peu près sans arrêt les uns chez les autres, et que finalement, l'Église prend plus de place que son couple, que sa femme. On s'occupe plus des chrétiens qui viennent chez nous, on s'occupe plus des amis qui viennent chez nous, on s'occupe plus des relations que l'on peut avoir de droite, de gauche qui viennent chez nous. Et quelque part, ces relations-là cannibalisent notre vie de couple, cannibalisent notre vie de parent, cannibalisent notre vie d'enfant. Il est important que nous soyons équilibrés. Le livre des Proverbes au chapitre 25 et au verset 17 dit « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Un économiste a dit un jour, trop d'impôts tue l'impôt. Il s'appelait l'affaire. Et je dirais peut-être que trop de communion fraternelle tue la communion fraternelle. C'est-à-dire qu'il y a comme une déviance. il y a comme finalement un excès qui est nuisible. Dans la vie chrétienne, une règle qui est de mise, c'est l'équilibre. Je pense que la communion et fraternelle est bonne, mais quand elle devient excessive, cela est dangereux. On voit dans, lorsque Paul écrit dans la première à Timothée, un exemple très concret d'une mauvaise communion fraternelle. Dans l'église primitive, il y avait de l'aide qui était donnée aux veuves. Et donc, ces femmes qui avaient perdu leur mari n'avaient pratiquement plus aucun moyen de subsistance. Il n'y avait pas toute l'aide que l'on peut avoir aujourd'hui. Et Paul, ayant connaissance des quelques problèmes qu'il pouvait y avoir à Éphèse, concernant une certaine liste qui était tenue, hein, seules les veuves qui étaient sur cette liste étaient habilitées à recevoir l'aide, Paul va écrire à Timothée, écoute, premièrement, que les veuves qui ont de la famille, ce soit leur famille qui s'en occupe. Hein. Celui qui néglige les siens est pire qu'un infidèle. Puis deuxièmement, il va dire que les veuves jeunes, eh bien, elles se remarient. Hein, elles se remarient parce que... Qu'elles aillent travailler. Tout simplement pour éviter que... Parce que ces veuves qui étaient jeunes, qui étaient pleines de vitalité, elles couraient de maison en maison. Et parfois, ça créait quelques problèmes, quelques tensions, notamment par le témoignage qu'elles pouvaient donner chez les inconvertis. C'est étrange hein, que Paul dise ça. Trop de communion fraternelle peut tuer la communion fraternelle. Faisons attention. Hein, faisons attention à cela. La deuxième maladie que peut avoir la communion fraternelle, c'est qu'elles peuvent devenir mondaines. L'exemple type se situe à Corinthe. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 17, Paul dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Qu'est-ce qui se passait à Corinthe ? La Sainte Cène, le repas du Seigneur, était célébré au milieu d'une agape. Et au milieu de cette agape, il y avait à peu près du tout et du n'importe quoi. Certains étaient ivres, tandis que d'autres n'avaient rien à manger, rien à boire. Et finalement, c'était un désordre sans nom. La communion fraternelle n'avait été vécue à Corinthe d'une manière totalement mondaine, finalement, à l'image de ce que la ville de Corinthe pouvait être. C'est bon de se retrouver ensemble. C'est bon de passer du temps ensemble. Peut-être aurons-nous le temps de le voir, c'est bon d'exercer l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges. C'est pas rien. L'apôtre Paul, notamment, exhortera les églises à exercer l'hospitalité. C'est quelque chose d'important, il faut le faire, c'est nécessaire. Simplement, sachons que derrière ces invitations, derrière ces relations, eh bien, c'est avant tout des relations spirituelles que nous recherchons. Ce n'est pas simplement des relations mondaines, ce n'est pas simplement de l'amitié, ce n'est pas simplement de passer du temps ensemble un petit peu comme les gens du monde peuvent le faire, mais finalement, c'est de partager les valeurs chrétiennes qui nous réunissent. C'est de partager les valeurs qui nous unissent. L'apôtre Paul dira, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ, version parole vivante, que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous, et il parle des chrétiens, des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Une communion fraternelle bien vécue, c'est une communion fraternelle qui repose premièrement sur la parole du Christ et deuxièmement sur une volonté de se communiquer des enseignements spirituels les uns aux autres. Troisième chose qui peut gâcher cette communion fraternelle ou la rendre peut-être un petit peu triste, c'est qu'il est nécessaire que la communion fraternelle soit mise en commun. Le terme grec qui parle de communion fraternelle s'appelle, alors excusez-moi, je ne suis absolument pas helléniste, koinonia, on dirait plus du japonais, hein, qui signifie mise en commun. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, vous voulez partager quelque chose. Et puis finalement, il n'y a que vous qui en menez, ou alors il n'y a que l'autre qui en mène. C'est terrible ça. Et parfois, dans nos relations les uns avec les autres, c'est un petit peu ce qui se passe. Mais j'ai envie de parler moi aussi. Et puis en face, il y a un moulin à parole qui est là. Non, toujours pas d'accord. Communion fraternelle, elle a vocation à mettre ce que l'on est en commun, à mettre notre passé en commun, à mettre notre présent en commun, à mettre notre futur en commun, à mettre nos joies en commun, à mettre nos peines en commun. Finalement, à déposer sur une table un petit peu notre vie, hein, avec toute la pudeur qui est nécessaire. Ce n'est pas non plus de l'exhibitionnisme. ce n'est pas non plus devenir en quelque sorte une gazette et publier tout ce que l'on est. Mais simplement livrer un petit peu ce que l'on est, s'ouvrir aux autres. Et pour que la communion fraternelle puisse s'exercer d'une manière correcte, il est donc nécessaire qu'il y ait de l'écoute, il est nécessaire qu'il y ait une forme d'ouverture, et il est surtout nécessaire qu'il y ait de l'humilité. Je crois que c'est l'un des fondements de la communion fraternelle. L'humilité, pourquoi ? Parce que je me dis, l'autre peut m'apporter quelque chose. Dites-moi, est-ce que dans les yeux d'un enfant, des fois, vous n'avez pas trouvé la force qui est nécessaire ? Jonathan, alors qu'on n'a pas le moral et quand on regarde les yeux de Bleuhen, on y trouve pleine force. On y trouve pleine force. Et combien de fois quelqu'un qui était ou semblait plus faible que nous ne nous a-t-il pas fait du bien ? Combien de fois, et je le confesse bien humblement, je suis arrivé dans des visites, fatigué, un petit peu lassé. C'était la 7e de la journée. Et puis là, il y avait une grand-mère qui était là, malade, sur son lit d'hôpital. Et puis je suis ressorti de là. Elle m'avait regonflé, elle m'avait boosté. Tout simplement parce qu'on a tous à s'apporter les uns des autres. On a tous à recevoir les uns des autres. Et ne faisons pas de complexe d'infériorité en disant « Mais j'ai quoi à mettre sur la table, moi ? Je ne suis qu'un ado, je ne suis qu'un jeune, je ne suis que quelqu'un qui finalement n'a aucune expérience de la vie chrétienne. Ça fait un an que je suis converti, mais qu'est-ce que je vais donner ? Qu'est-ce que je vais offrir ?» On a tous reçu quelque chose. On a tous reçu quelque chose. J'aime beaucoup la notion de l'humilité, la définition de l'humilité telle que Paul la donne dans le second chapitre de l'Épître aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Paul, il explique, l'humilité, c'est pas s'abaisser, c'est pas dire je suis un nul. L'humilité, c'est pas dire mais je vaux rien par rapport à Samuel. Je suis un musicien, mais lamentable, je ne sais même pas la différence qu'il peut y avoir entre une ronde et une croche, etc. C'est catastrophique, je suis nul, comment est-ce que je vais faire ? Non, l'humilité, c'est dire, waouh, en musique, il s'y connaît mieux que moi. Et Samuel dira, dans un autre domaine, Olivier, il s'y connaît mieux que moi. Et ainsi, on s'aperçoit que l'humilité nous fait regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Et l'humilité ne nous fait pas nous regarder comme étant inférieurs à nous-mêmes. Tout simplement parce que notre Dieu ne veut pas nous avilir. L'évangile n'est pas quelque chose qui nous dit « tu es nul ». L'évangile n'est pas une puissance qui nous dit, qui nous rabaisse. Mais au contraire, l'évangile nous dit « oui, tu es pécheur. Oui, tu as fait des erreurs. Mais simplement, avec la grâce de Dieu, tu peux te relever, tu peux changer, tu peux être transformé. » C'est ça la pensée de Dieu. Et de la même manière, lorsque je regarde mon frère, je me dis « merci Seigneur. » pour tous les talents qu'il a et pour tout ce qu'il peut me communiquer. Merci Seigneur pour tout ce que je peux lui offrir également, parce que tu as investi en moi, nous le verrons peut-être tout à l'heure, de la même manière que tu as investi en lui. Et c'est là toute la force du corps de Christ. Quatrième danger, c'est ne vivre sa foi qu'au travers de la communion fraternelle. Il est nécessaire de remettre les choses en place. Je ne me convertis pas, si cela était possible, parce que dans l'église, il y a une bonne ambiance. Mais je participe à la communion fraternelle parce que j'ai fait une expérience avec Jésus. Pourquoi vient-on à l'église ? Question simple. Pourquoi les jeunes viennent-ils aux réunions de jeunesse ? Pourquoi les enfants viennent-ils le dimanche matin? Pourquoi venons-nous aux réunions de prière? Pour l'ambiance ou pour l'atmosphère? L'ambiance étant purement humaine, l'atmosphère étant purement spirituelle. Quel est le principe? Voyez-vous, si je suis attaché au sarment, si le sarment tombe, est émondé, alors je tomberai avec lui. Mais si je suis attaché au cep, alors je prendrai toute la force qui vient directement du cep. Et le danger d'une communion fraternelle, d'une foi qui n'est basée que sur la communion fraternelle, c'est que si à un moment ou un autre, bien, le pasteur change, l'église change, pour une raison ou pour une autre, elle traverse une tempête, où est-ce que je serai ? Est-ce que je serai encore assis le dimanche matin sur cette chaise? Est-ce qu'on me trouvera encore à genoux dans ma chambre à prier et à intercéder? Ou bien est-ce que finalement, je serai l'un de ces dégâts collatéraux qui se retombera entre les griffes de diable et qui retournera ce qu'il a vomi? C'est toute la différence. Pourquoi? Qu'est-ce que je vis? Est-ce une relation avec le cep? Ou est-ce une relation avec les sarments? Je renvoie au texte de Jean 15. Est-ce que je vis une relation avec le cep? Ou est-ce que je vis une relation avec les sarments? À nous de répondre, chacun pour notre part. Mais si nous vivons une relation avec les sarments, alors sachons que nous sommes en danger et qu'un jour ou l'autre, nous sommes susceptibles, eh bien, de tomber, parce que la force vient du cep, même si elle est communiquée parfois par des sarments. Alors, les dangers de la communion fraternelle, je les rappelle, il faut distinguer que ce n'est pas de l'amitié, c'est une relation qui est verticale, c'est une relation de partage où on s'offre mutuellement, et c'est la conséquence de notre foi et non pas la résultante de notre foi. Et vous savez quel est le plus grand danger? C'est de ne pas la vivre. Le plus grand danger pour un chrétien, c'est de ne pas vivre la communion fraternelle. Et ça sera deuxième partie. Pourquoi est-ce un danger de ne pas vivre la communion fraternelle? Vous avez déjà vu ces émissions à la télévision qui, sur Arte, alors c'est ce que regardent les pasteurs des fois le temps le dimanche soir alors qu'ils n'ont plus envie de réfléchir, vous savez. Ils ont passé la journée, ils sont vannés, etc. Et puis là, ils s'assoient. On veut surtout plus qu'on nous parle. Alors on met Arte. Et puis là, on voit toutes sortes d'animaux. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Non chérie, j'ai pas envie de manger, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et là, on voit un troupeau de gnous. Et on voit des lions qui les attaquent, qui essaient de les attaquer. Et on est en admiration devant la tactique que les lions peuvent déployer. Ils visent le gnou le plus faible, mais qui est quand même bien dodu. Celui qui est peut-être malade. Celui qui s'est peut-être disputé avec les autres. Celui qui est à la queue du troupeau. Et alors, il se focalise sur lui et il le blesse encore un petit peu plus. Résultat des courses, le gnou est encore un peu plus séparé du troupeau. Il se retrouve à 500 mètres du troupeau. Alors, les lions vont attaquer une deuxième fois, mais les autres vont encore protéger un petit peu le gnou. Parce que des gnous, vous savez, c'est quand même costaud. Mais quand un troupeau de gnous vous fonce dessus, les quatre lions peuvent toujours courir. Une église, c'est costaud, quand elle est bien unie. Et au fur et à mesure, au bout de 4-5 attaques, voici que notre pauvre gnou, eh bien, il est trop éloigné du troupeau et il va faire le 4 heures des petits des lionnes, puisqu'elles donnent à manger en priorité à leurs petits. Dites-moi, un chrétien sans communion fraternelle, c'est un gnou qui est à la queue du troupeau. C'est un gnou qui, à un moment ou un autre, va servir de 4 heures au diable. On a besoin d'être protégé. On a besoin de veiller les uns sur les autres. On n'a pas besoin de se surveiller les uns les autres. Mais on a besoin de veiller les uns sur les autres. On a besoin de regarder Olivia et dire, ça va Olivia? Non? Allez, viens, on va prier ensemble. Viens boire un thé, on va discuter. Allez, Benjamin, ça va? Le Seigneur te bénisse, je pense à toi dans mes prières. On prie les uns pour les autres. On vit ensemble. Et tant qu'il y aura cette unité, tant que finalement je serai dans le troupeau, eh bien les lionnes, elles pourront s'approcher, mais les autres gnous, je suis désolé de vous comparer avec des gnous, c'est pas très, c'est pas très glamour. Mais n'empêche que l'on est protégés les uns des autres. C'est quand nous sommes seuls ou quand notre famille est seule, que finalement, nous sommes en danger. Deuxième chose, la communion fraternelle est donc utile pour nous maintenir en sécurité, même si parfois elle génère quelques souffrances, parce qu'elle n'est pas facile, il ne faut pas se leurrer. Deuxièmement, elle permet de communiquer ce que nous avons reçu. Vous savez que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu ? Vous savez que vous avez au moins reçu un talent de la part de Dieu? Vous savez que Jésus vous a confié des choses? Qu'il a investi en vous? Comme il a investi en moi, mais quelle folie d'investir en moi! Il aurait investi dans ma femme, je comprendrais. Mais en moi, c'est pas cohérent, ça. De la même manière, il a investi dans chacun d'entre nous. Mais est-ce que cet investissement, nous n'avons pas vocation à le garder pour nous? Et où est-ce que nous le déposerons? Dans quoi est-ce que nous l'investirons si nous nous privons de ce terrain qui est la communion fraternelle, qui est l'Église, qui est le fait de vivre les uns avec les autres, qui est le fait de partager des choses communes les uns avec les autres? Mon frère a besoin de ce que j'ai, et j'ai besoin de ce qu'a mon frère. Et si demain, eh bien, Maïné partait, hein, il me manquerait quelque chose, parce que Maïné donne. Elle donne à Christine, et Christine me donne à moi, etc. Et c'est cet enchevêtrement de choses. Mais quand je ne donne pas ce que j'ai reçu, vous savez quoi? Je ne suis pas à l'image de Dieu. J'ai déjà raconté cette petite anecdote qui m'avait fait extrêmement de bien, beaucoup de bien, pardon. C'était à l'époque du rideau de fer. Il n'y avait pas grand-chose à manger. Et devant une boulangerie, un enfant était en train de contempler, tôt le matin, des beignets qui étaient posés. Il fumait, il semblait bon. Et cet enfant n'avait pas eu l'occasion de manger depuis quelque temps. Et puis, dans cette boulangerie, rentre tout d'un coup un militaire. Et il va se retourner et il va voir l'enfant qui salive devant les beignets. Alors, il va acheter une dizaine de beignets. Et puis, il va sortir, il va dire à l'enfant, « Tu veux les beignets ?» Puis l'enfant va lui dire, « Oui, bien sûr que je veux les beignets. » Alors, il va les lui donner. Et puis, il va tourner le dos. Et l'enfant de lui courir après, de tirer derrière sa gabardine et de le regarder avec ses grands yeux et de lui dire, « Monsieur, vous êtes Dieu ?» Et le pasteur qui citait cette anecdote de dire, « Nous ne ressemblons jamais autant à Dieu que lorsque nous donnons. » Nous ne ressemblons jamais autant à Dieu que lorsque nous donnons. Mon caractère, mon identité d'enfant de Dieu se développe quand je donne, quand je communique ce que j'ai reçu, quand je communique ce que Dieu m'a donné, quand je communique finalement ce que le Seigneur m'a confié. C'est là qu'il y a cet épanouissement spirituel. Et bien souvent, nos vies sont atrophiées parce que nous ne donnons pas. Parce que nous avons oublié de donner, parce que nous avons enterré, parce que nous sommes allés sous le premier arbre venu et que nous avons eh bien, enfoui nos talents, parce qu'ils sont enfouis sous des tonnes de souffrances, parce qu'ils sont enfouis sous des tonnes de déceptions, parce qu'ils sont enfouis sous une tonne de paroles qu'on a pu nous dire. Et alors nous ne donnons plus. Nous ne donnons plus ce que nous sommes. Mon frère, ma sœur, tu ne ressembles jamais autant à Dieu que lorsque tu donnes. Non pas ce que ton frère a reçu, mais ce que toi tu as reçu. Troisièmement, c'est se priver de faire des exploits. J'aime beaucoup ce texte que l'on trouve dans le livre de l'Exode. Josué est en train de combattre en bas, puis en haut sur la montagne, il y a Moïse, Aaron et Hur. Quatre protagonistes. Chaque fois que Moïse a les bras élevés, l'armée d'Israël avance. Chaque fois que le jeune homme qu'est Moïse, 80 ans, baisse les bras, l'armée d'Israël recule. Alors, Aaron et Hur vont prendre une pierre, faire s'asseoir Moïse, et vont soutenir les bras. Et ainsi, eh bien, Josué, qui est en train de se battre en bas avec l'armée d'Israël, va remporter la victoire. Deux axes. Très simple dans cette réflexion, dans cette partie. Nous pouvons être des Josué. On peut avoir autour de nous des ennemis nombreux. On peut avoir une foule de problèmes, une foule de soucis. Pourquoi n'allons-nous pas chercher un Moïse? Pourquoi nous débattons-nous seuls dans nos tourments? Pourquoi nous débattons-nous seuls dans nos problèmes moraux, psychiques, spirituels, financiers? Pourquoi n'allons-nous pas chercher un Moïse qui montera sur la montagne? Parce que, mes frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous le dis. Mais quand l'épreuve est là, quand la difficulté est là, on n'a pas forcément toujours envie de prier. On n'a pas forcément toujours la force de prier. On n'a pas forcément toujours le ressort pour se confier à Dieu. Je me trompe ou pas? J'ouvre mon cœur, hein? Alors, pourquoi rester dans cet état-là? Est-ce qu'on pourrait emmener la petite bout de choute à la garderie, s'il vous plaît? avant que je ne le fasse moi-même. Alors pourquoi rester dans cet état-là? Pourquoi finalement rester dans cette dimension-là? Je suis blessé, j'ai plus de ressort. Allons chercher à Moïse. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin qu'on passe un petit moment là, tranquillement devant la parole de Dieu. J'ai besoin que finalement tu me donnes un petit peu de ressort. J'en ai besoin. J'ai besoin qu'on jeûne ensemble, qu'on prie ensemble. Puis peut-être sommes-nous un Moïse également. Un Moïse fatigué de porter tous les tracas et tous les problèmes que les autres peuvent avoir. Je pense notamment aux parents qui peuvent porter leurs enfants à bout de bras, à bout de cœur. Je pense peut-être à certains maris, à certaines femmes. Je pense des chrétiens qui portent des problèmes lourds sur leurs épaules. Alors on est sur la montagne, mais on sent que petit à petit, eh bien, nos bras s'abaissent. On commence à être fatigué, on commence nous aussi. On a du mal à porter. Et Aaron, Hur, venez. Venez m'aider, quoi. Venez, on va passer un peu de temps. Venez soutenir mes bras, ils sont languissants. Et ainsi, la communion fraternelle permet de faire des exploits. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir les bras languissants, la foi languissante? Qu'avez-vous fait? Et on s'aperçoit bien que lorsque on a reçu une parole de Dieu, lorsqu'on a passé du temps dans la prière avec quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Et je précise tout de suite, avec beaucoup d'humilité, ça n'a même pas besoin d'être le pasteur. Si c'est le pasteur, c'est bien. Mais si c'est un frère, une sœur, un ancien, peu importe, c'est également bien. C'est également bien. C'est comme ça que l'Église devient mature, qu'elle se soude, qu'elle se fonde, et que la communion fraternelle s'exerce réellement. C'est une source de soutien. On l'a évoqué plus ou moins en filigrane, mais j'aimerais développer un point particulier. Quelqu'un a dit que la communion fraternelle, c'était l'épaule de Jésus sur la terre. Je trouve que l'expression est magnifique. Chaque fois que vous tendez l'épaule à un frère et à une sœur qui souffrent, vous faites le rôle de Jésus. Jésus se sert de vous. Vous savez que l'épaule de Samuel, ça peut être l'épaule de Jésus. Que l'épaule de Christelle, ça peut être l'épaule de Jésus. Que l'épaule de Myriam, ça peut être l'épaule de Jésus pour vous. Parfois, il y a des épaules qu'on ne soupçonne même pas. Parfois, il y a des épaules, on dirait, on n'y penserait même pas. On passe à côté d'elles, comme ça. Un petit peu méprisant. J'aime beaucoup cette image dans les évangiles, l'évangile de Luc, lorsque le bon berger, il va aller chercher la brebis qui s'est égarée. Il va chercher cette brebis, mauvais caractère, on ne sait pas, enfin, je dis qu'elle a un mauvais caractère parce qu'elle me caractérise bien, même ça me va bien. Elle s'est éloignée du troupeau. Et puis, hop, le bon berger va laisser les 99 autres. Et puis, il va se lancer à la recherche. Mais la montagne est vaste. Et puis il va la retrouver. Et où est-ce qu'il va la mettre? Sur son épaule. Sur son épaule. Et parfois, il faut avoir ce courage pour porter quelqu'un qui est tombé, pour porter un frère, une sœur qui est en train, qui s'est peut-être égaré. Alors on le met sur l'épaule de la communion fraternelle. Et puis on lui dit, on va te ramener à la bergerie. Mais parfois il se débat, il est blessé, il souffre. Alors on dit au Seigneur, bien tu m'aides. Oui, le Seigneur est avec nous. Mais c'est quand même lui qui nous, c'est nous que parfois, qui parfois il veut utiliser. Je crois dans l'instantané de Dieu, il n'y a aucun problème. Je vous le prêche suffisamment souvent, la guérison divine, aucun souci. Mais parfois, la guérison que Dieu veut utiliser, c'est nous. L'outil que Dieu veut utiliser, c'est nous, afin que nous portions, que nous prenions le temps, que nous mobilisions nos forces, afin de ramener quelqu'un qui est blessé, eh bien dans la bergerie, dans l'hôpital qu'est l'Église, et tout simplement auprès du Seigneur, parce que c'est lui qui soigne, c'est lui qui soigne. Alors en conclusion, sais pas, on peut avoir plein de mauvaises raisons pour ne pas la pratiquer. Première de ces mauvaises raisons, c'est que les autres ne peuvent rien m'apporter. Je vis ma foi seule, je l'ai toujours fait comme ça ne changera pas. Oui. Je vais être méchant, vous permettez? C'est mon quart d'heure. Ça ne s'apparenterait pas un petit peu de l'orgueil, ça? Couplé avec de l'égoïsme. Frère, ça fait 30 ans que je vis comme ça ne changera pas. D'accord. D'accord. Mais c'est dommage parce qu'on enterre quelque chose. Cette force que Dieu nous a donnée, on pourrait la communiquer à d'autres. C'est très dommage. Deuxième mauvaise raison. Bah, les autres sont tellement différents de moi que j'ai aucune affinité avec eux. Si ? Peut-être pas d'affinité spirituelle. Peut-être pas d'affinité terrestre, pardon, mais au moins des affinités spirituelles. Et puis cette notion de complémentarité, elle est forte. Vous imaginez si tout le corps c'était un doigt ? Ou alors le corps soit une oreille. Vous imaginez, vous ? Quelle drôle de tête on aurait ! Troisième fausse raison, une fausse pudeur. Je n'ai pas envie de livrer ma vie aux autres. Mais la communion fraternelle, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. C'est juste à un moment donné, dire j'en ai marre, j'en ai assez. J'ai besoin d'aide. Sans même forcément donner les raisons. Hein? Dire viens juste prier avec moi, j'ai besoin de toi. Ou tout simplement se réjouir avec toi, parce que je l'ai présenté d'une manière quelque peu négative. Mais il y a aussi des sujets de joie. Hé, viens à la maison, j'ai une super bonne nouvelle, mon fils est en train de se convertir. Viens à la maison, j'ai une super bonne nouvelle, j'ai eu une promotion dans mon travail. Viens à la maison, j'ai une bonne nouvelle, le pasteur a prêché moins longtemps ce dimanche. C'est pas le cas en plus. Quatrième chose, mauvaise conception, la peur du jugement. Je suis pas assez bien. Vous savez, je l'ai dit une fois, il ne faudra pas le répéter à mes collègues pasteurs. Hein. D'accord ? Promis ? Mais parfois, on ferait bien de faire des réunions de témoignages d'échecs. Faire venir les gens, là, voilà. Là, je me suis planté, là, je me suis planté, là, je me suis planté. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, il m'a relevé. Il m'a pardonné. J'ai saisi le pardon. Puis une autre, derrière, qui dit, oh là là, ma vie, si tu le savais, en ce moment, j'ai l'impression que mes prières, elles ne passent pas le plafond. Je crois quand même. Eh bien, que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses frayeurs. C'est vrai, parfois on se complexe les uns les autres, les uns par rapport aux autres. Vous avez tous l'air tellement fort dans votre foi ce matin. Vous me complexez presque. Ce n'est pas le cas. Celui qui est assis à côté de toi a peut-être connu les mêmes choses. Et tu as peut-être connu les choses qu'il connaît aujourd'hui. Et c'est bon de les partager. C'est bon de les partager. Et puis, cinquième raison, je ne veux pas vivre qu'au travers de l'Église. Mais c'est pas ça la communion fraternelle. L'Église n'a pas vocation à nous couper de la société. Jésus a dit qu'au contraire, on devait vivre dans le monde, mais non selon les principes du monde. Comme je dis de temps en temps, imaginez si le sel reste dans la salière, comment est-ce que les nouilles vont être salées? Si les chrétiens restent en vase clos, 83 rue du Pontreau, comment est-ce que le monde connaîtra qu'il y a un sauveur? C'est pas ça la communion fraternelle, c'est pas devenir sectaire, pas se couper les uns des autres, mais c'est partager des choses hein, de manière privilégiée avec des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs centrales, puisque l'évangile est au centre de notre vie, que nous pouvons vivre et que nous pouvons partager. Voilà, quelques conceptions qui peuvent être mauvaises et donc que nous pouvons porter dans notre cœur. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse. Et que nous puissions prier afin de bien vivre cette communion fraternelle. Parce que je vous le répète, elle ne se décrète pas. Mais simplement, elle est le fruit d'une relation personnelle avec le Seigneur qui nous unit tous les uns aux autres. Que son nom soit béni. Amen.